Deuxième partie. Commission. Chapitre 2. Une chaise. Une table. Une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne, et en son centre, un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage d'où un œil a été extrait. Il a dû y avoir un lustre un jour. Ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait attacher une corde. Une fenêtre, deux rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie, l'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes, et contempler cela. Deux rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol, qui est fait de bois, en latte étroite, d'un beau poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffons tressés. C'est le genre de style qui leur plaît. Art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leurs loisirs, à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas, ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin? Au mur, au-dessus de la chaise, un tableau. Encadré, mais sans verre. Une reproduction de fleurs. Des iris bleus à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous toutes la même reproduction? La même chaise, les mêmes rideaux blancs? Je me le demande. Matériel militaire réglementaire?
Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait Tante Lydia.
Un lit, à une place, matelas semi-dur, recouvert d'une courte pointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans le lit, sauf dormir. Ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances, et j'ai l'intention de durer. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie, et pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas une fuite qu'ils craignent, nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Voyons, hormis ces détails, ce pourrait être une chambre d'hôte d'université, destinée aux visiteurs les moins distingués, ou une chambre dans une pension de famille d'autrefois, pour dames aux moyens restreints. C'est ce que nous sommes maintenant. Nos moyens ont été restreints. Pour celles de nous qui ont encore des moyens. Mais une chaise, du soleil, des fleurs, tout cela n'est pas à dédaigner. Je suis vivante, je vis, je respire. J'étends la main ouverte dans le soleil. Ce lieu où je suis n'est pas une prison, mais un privilège, comme disait Tante Lydia, qui adorait les solutions extrêmes. La cloche qui mesure le temps sonne. Le temps est mesuré ici par des sonneries. Comme jadis dans les couvents. Et comme dans un couvent, il y a peu de miroirs. Je me lève de la chaise. J'avance les pieds au soleil dans leurs souliers rouges, à talons plats pour ménager la colonne vertébrale et pas pour aller danser. Les gants rouges sont posés sur le lit. Je les ramasse, les enfile à mes mains, un doigt après l'autre. Tout, sauf les ailes qui m'encadrent le visage, est rouge, la couleur du sang qui nous définit. La jupe descend jusqu'aux chevilles. Elle est ample, reprise dans un empiècement plat qui couvre les seins. Les manches sont larges. Les ailes blanches aussi sont réglementaires. Elles nous empêchent de voir, mais aussi d'être vues. Je n'ai jamais été à mon avantage en rouge. Ce n'est pas ma couleur. Je ramasse le panier à commission, le passe à mon bras. La porte de ma chambre. Pas de ma chambre. Je refuse de dire ma chambre. N'est pas verrouillée. En fait, elle ne ferme pas bien. Je sors dans le couloir ciré, qui est recouvert au milieu d'une bande de tapis vieux rose. Comme un sentier à travers la forêt. Comme un tapis pour des personnages royaux. Il me montre la route. Le tapis tourne et descend l'escalier principal, et je le suis. Une main sur la rampe, qui fut jadis un arbre, tourné en un autre siècle, frotté à en avoir acquis un lustre chaud. De fin d'époque victorienne, cette maison. Une maison familiale, construite pour une famille nombreuse, riche. Il y a une vieille horloge dans le vestibule, à égrener les heures. Puis la porte qui donne dans le grand salon maternel avec ses tons chers et ses allusions. Un salon où je ne m'assieds jamais. J'y reste debout ou je m'agenouille. Au bout du vestibule, au-dessus de la porte d'entrée, il y a une imposte de verre coloré, des fleurs rouges et bleues. Il reste un miroir au mur du vestibule. Si je tourne la tête pour que les ailes blanches qui m'encadrent le visage dirigent mon regard vers lui, je le vois quand je descends l'escalier. Rond, convexe, entrumeau, pareil à un œil de poisson. Et moi, dedans, ombre déformée, parodie de quelque chose, personnage de conte de fées en cape rouge, descendant vers un moment d'insouciance qui est identique au danger. Une sœur, trempée dans le sang. Au pied de l'escalier, il y a un porte-parapluie et chapeau, de ceux qui sont faits de bois courbé, avec de longs barreaux arrondis, qui s'incurvent doucement vers le haut, en forme de fronde de fougère sur le point de s'ouvrir. Il contient plusieurs parapluies. Un noir pour le commandant, un bleu pour l'épouse du commandant, et celui qui m'est affecté et qui est rouge. Je laisse le parapluie rouge à sa place, parce que j'ai vu par la fenêtre que le soleil brille. Je me demande si l'épouse du commandant est dans le salon. Elle ne reste pas tout le temps assise. Quelquefois, je l'entends marcher de long en large, un pas lourd, puis un pas léger, et le martèlement discret de sa canne sur le tapis vieux rose. Je parcours le vestibule, passe devant la porte du salon et celle qui mène à la salle à manger. J'ouvre la porte à l'extrémité du couloir et pénètre dans la cuisine. Ici, l'odeur n'est plus celle de la cire à meubles. Rita est là, debout, à la table de cuisine, qui a un plateau d'émail écaillé. Elle porte sa robe habituelle de Martha, d'un vert terne, comme une blouse de chirurgien du temps d'avant. Cette robe ressemble beaucoup à la mienne par sa coupe, longue et dissimulante, mais elle est recouverte d'un tablier à bavettes et ne comporte ni les ailes, ni le voile. Elle revêt le voile pour sortir, mais personne ne se soucie beaucoup que le visage d'une Martha soit vu. Elle a les manches roulées au coude, découvrant ses bras bruns. Elle est en train de faire du pain, de façonner les miches pour le dernier pétrissage rapide, suivi de la mise en forme. Rita me voit et fait un signe de tête en guise de salut, ou simplement pour marquer ma présence. Je ne saurais le dire. Essuie ses mains farinées à son tablier et fourrage dans le buffet de la cuisine à la recherche du carnet de tickets. Sourcils froncés, elle détache 3 tickets et me les tend. Son visage pourrait être bienveillant si seulement elle souriait. Mais le froncement de sourcils ne s'adresse pas à moi. C'est la robe rouge qu'elle désapprouve, avec ce qu'elle représente. Elle pense que je risque d'être contagieuse, comme une maladie ou n'importe quelle forme de malchance. Parfois, j'écoute à l'extérieur de portes fermées, chose que je n'avais jamais faite avant. Je n'écoute pas longtemps parce que je ne veux pas être prise sur le fait. Pourtant, une fois, j'ai entendu Rita dire à Cora qu'elle n'accepterait pas de s'avilir ainsi. « Personne ne te le demande, » répondit Cora. « De toute façon, qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait ?»« Aller aux colonies, » dit Rita. « Elles ont le choix. Avec les antifemmes, et crever de faim, et Dieu sait quoi encore ?» dit Cora. « À d'autres, Elles étaient à écosser des pois. Même à travers la porte presque close, j'entendais le léger tintement des pois durs tombant dans le bol de métal. J'entendis Rita grogner ou soupirer en guise de protestation ou d'assentiment. Quand même, elles font ça pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on dit, reprit Cora. Si je m'étais pas fait ligaturer les trompes, ça aurait pu être moi, si j'avais, disons, 10 ans de moins. C'est pas si terrible que ça. C'est pas ce qu'on appellerait du travail pénible. Plutôt elle que moi, fit Rita. Et j'ouvris la porte. Leurs visages étaient comme sont les visages de femmes qui ont parlé de vous derrière votre dos et croient que vous les avez entendues. Gênés, mais un peu insolents. Comme si c'était leur droit. Ce jour-là, Cora fut plus aimable avec moi que d'habitude. Rita plus revêche. Aujourd'hui, malgré le visage fermé de Rita et ses lèvres serrées, j'aurais aimé rester ici dans la cuisine. Cora aurait pu entrer, venant d'un autre endroit de la maison, avec sa bouteille d'essence de citron et son chiffon à poussière. Et Rita aurait fait du café. Dans les maisons des commandants, il y a encore du vrai café. Et nous nous serions assises à la table de cuisine de Rita, qui ne lui appartient pas plus que ne m'appartient ma table, et nous aurions causé de douleurs et de courbatures, de maladies, nos pieds, notre dos, toute la série de mauvais tours que nos corps, tels des enfants indisciplinés, peuvent nous jouer. Nous aurions hoché la tête pour ponctuer les dires les unes des autres et montrer que, oui, nous connaissons bien tout cela. Nous aurions échangé des remèdes et tenté de nous surpasser mutuellement dans la litanie de nos misères physiques. Doucement, nous nous serions plaintes, à voix basse, sur un ton mineur et mélancolique, comme des pigeons sur les rebords des gouttières. « Je vois exactement ce que tu veux dire », aurions-nous murmuré. Ou expression curieuse, que l'on entend encore parfois dans la bouche de personnes âgées, « J'entends bien d'où tu viens », comme si la voix elle-même était une voyageuse, arrivant d'un endroit lointain. Ce qui serait le cas. Ce qui est le cas. Comme je méprisais ces conversations. Maintenant, je soupire après elles. Au moins nous parlions. Un échange du moins. Où nous aurions cancané. Les Martha savent des choses. Elles parlent entre elles. Font circuler les nouvelles officieuses d'une maison à l'autre. Comme moi, elles écoutent aux portes sans doute. Et voient des choses. Même les yeux ailleurs. Je les ai entendues faire parfois. J'ai saisi des bouffées de leur conversation privée. Mort-né qu'il était. La piquait avec une aiguille à tricoter, en plein dans le ventre. La jalousie sûrement, qui la rongeait. Ou féroce. C'est du récurrent pour les WC qu'elle a utilisé. Ça a marché à merveille. Pourtant, on croirait qu'il l'aurait senti. Il devait être fin sous, mais elle s'est fait pincer quand même. Où j'aurais aidé Rita à faire le pain, plongeant les mains dans cette chaleur résistante et douce qui ressemble tant à de la chair. J'ai faim de toucher quelque chose d'autre que du tissu ou du bois. J'ai faim de commettre l'acte de toucher. Mais même si je le demandais, même à supposer que je viole l'étiquette à ce point, Rita ne me le permettrait pas. Elle aurait trop peur. Les Martha ne sont pas censées fraterniser avec nous. Fraterniser signifie se comporter comme un frère. C'est Luc qui me l'a dit. Il disait qu'il n'existe pas de mot correspondant pour signifier se comporter comme une sœur. Il faudrait dire sororiser, d'après lui. Ça vient du latin. Il aimait savoir ce genre de détails, les origines des mots, les usages curieux. Je le taquinais à propos de sa pédanterie. Je prends les tickets dans la main tendue de Rita. Ils portent des images qui représentent les choses contre quoi on peut les échanger. Une douzaine d'œufs, un morceau de fromage, un objet brun qui est censé représenter un steak. Je les range dans la poche à glissière de ma manche, là où je garde mon laissez-passer. « Dites-leur bien frais les œufs, fait-elle. Pas comme la dernière fois. Et dites-leur un poulet, pas une poule. » « Dites-leur pour qui c'est, et ils ne vous colleront pas n'importe quoi. » Je réponds « Très bien. » Je ne souris pas. Pourquoi l'attirer dans une amitié ?